c'est tout le mystère de l'Église, à commencer par saint Paul quand il dit en Colossiens 1, 24, si ma mémoire est bonne, « Je complète en ma chair ce qui manque à souffrir des épreuves de Christ pour son corps qui est l'Église. » Je complète. Mais qu'est-ce qu'il y a à compléter ? Ça veut dire que la passion de Jésus suffit à tout ? Ben, justement, c'est une passion qui doit s'emparer du corps entier. Hein. Quand saint Thomas commente ce verset de saint Paul, il dit ben, « Paul ne complète pas, Paul et chaque chrétien, hein, je complète ce qui manque à la passion du Christ. Je complète rien dans l'ordre du salut, de la justice, mais je permets au salut de se réaliser pleinement dans ma vie et dans l'Église. » Donc, ce n'est pas de l'ordre de la co-rédemption, au sens d'être tous les deux principes de la rédemption, mais c'est au sens de l'assimilation des fruits de la rédemption. Il y a un ministère d'intercession, on va en parler maintenant, un ministère de médiation pour que les hommes puissent bénéficier des fruits du salut qui ne viennent que du Christ. Et il y a une certaine participation à l'œuvre de la passion, non pas dans l'ordre d'une efficacité rédemptrice, mais dans l'ordre d'un pâtir aussi, hein, les épreuves, la maladie, vécue dans la foi, en union avec la passion du Christ, est une certaine participation au mystère de la rédemption. Ce n'est pas une co-rédemption, mais c'est une co au sens de avec, hein, pas au sens d'un partage de...
Est-ce qu'on peut dire Marie, mère de la rédemption, et ménagerie de couple ?
Alors, mère du rédempteur, ça c'est une évidence. Et alors, médiatrice de toute grâce, vous savez que ça aussi, c'est déjà reconnu comme une fête dans l'Église en Belgique, hein, 31 août, médiatrice de toute grâce, dans certains sanctuaires. C'est tout à fait juste au sens où Dieu a voulu venir. Marie est médiatrice, puisque c'est par elle que Dieu vient au monde, et je crois qu'elle est réellement médiatrice de grâce. Mais là encore, à chaque fois, ça demande d'être accompagnée d'un certain nombre de précisions théologiques pour ne pas contredire la parole de Paul qui dit il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, première lettre à Timothée, chapitre 5, si je ne me trompe pas. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, en soi, dans ce type de médiation-là, il est le seul, puisqu'il est le seul à être Dieu vivant notre humanité. Mais la médiation de Marie est d'un autre ordre. Elle n'est pas médiatrice entre Dieu et les hommes. On pourrait dire qu'elle est médiatrice entre le Christ et nous. Elle est médiatrice des dons de Dieu pour nous. Donc elle est médiatrice, mais c'est une médiation d'un autre ordre que celle du Rédempteur. Elle est médiatrice. Et il y a une vocation de la femme à être médiatrice d'amour, c'est bien évident. Donc vous voyez, là aussi, le mot est juste, mais à chaque fois, il faut en donner le sens. Et donc certains, comme le cardinal Mercier, je crois, en Belgique, avaient voulu là aussi œuvrer en faveur d'un dogme de Marie, médiatrice de toute grâce, ça ne s'est pas fait. Pourtant c'est vrai, et certains papes emploient l'expression et le disent, mais pour ne pas engendrer les confusions, freiner le dialogue œcuménique et je ne sais quoi encore, il vaut mieux ne pas proclamer ça dogmatiquement. Mais par contre, il faut en approfondir le sens profond. Alors, on va essayer de continuer à approfondir encore ça. Je voudrais regarder avec vous, on en a déjà un peu parlé avec les récits de la Genèse, mais peut-être en regarder des implications. Puisque vous n'avez pas voulu lire les récits de la thème, peut-être qu'on pourrait approfondir la question de la femme, justement, comme icône de l'Église et de la vocation chrétienne. Autrement dit, icône du sacerdoce royal des fidèles, tout simplement. Hein. L'Église, ce n'est pas les prêtres. L'Église, c'est les baptisés. Les prêtres sont d'abord des baptisés. Hein. Donc, non, mais parce que dans l'esprit des gens, l'Église, c'est la hiérarchie, c'est les prêtres. Non, l'Église, c'est les baptisés, sauvés par le Christ. Et parmi ces baptisés, certains ont ce ministère particulier pour lequel ils reçoivent un sacrement d'être les serviteurs du chemin de sainteté des fidèles. Le ministère sacerdotal est serviteur du sacerdoce des baptisés, du sacerdoce royal. Et ce sacerdoce royal, prophétique, baptismal, c'est la femme qui en est l'icône par excellence. ça n'exclut pas les hommes, hein, mais je veux dire, la femme doit en être l'aiguillon, le modèle pour tous. Donc je voudrais creuser peut-être ça un peu avec vous, en particulier en regardant Marie. Et donc, après avoir regardé la Genèse, Adam et Ève, on va essayer de regarder ce qui se passe dans la Nouvelle Alliance, la relation du Christ à Marie, du Christ à l'Église, qui va donner au mystère de la femme une dignité encore plus grande. Alors, je vous cite un petit passage de Mouilleris Mutatel que nous n'avons pas lu ensemble, au numéro 29, donc vous l'avez quelque part dans vos feuilles. Jean-Paul II parle du signe de la femme. C'est une expression qui revient de temps en temps. Et il dit, donc une phrase essentielle, enfin, ne dit pas comme ça, je résume sa pensée, hein, vous l'aurez, numéro 29. Dans le signe de la femme se laisse déchiffrer la vocation de tous les êtres humains, hommes et femmes, à être l'épouse du Christ. Je cite le numéro 29. L'épouse, c'est celle qui est aimée, celle qui reçoit l'amour pour aimer à son tour. Elle reçoit l'amour et elle le donne. C'est, je vais dire, la définition même de la personne humaine. L'homme, la personne humaine, est la seule créature que Dieu a voulu pour elle-même, et la personne ne se trouve que dans le don désintéressé d'elle-même. Ça, c'est des leitmotifs de toute la théologie de Jean-Paul II. La personne n'est personne, on l'a vu avec Adam, hein, que quand elle vit, le fait d'aimer et d'être aimé. Hein. Le don désintéressé, c'est ça l'amour. Et donc, celle qui est emblématique de l'accueil et du don de l'amour, c'est la figure de l'épouse, qui est une figure féminine. Donc, pour Jean-Paul II, la femme, elle est signe et gardienne de la vocation de toute personne, homme et femme, laïque, clerc, toute personne, gardienne de la vocation de tout homme, gardienne aussi de la vocation et du mystère de l'Église. Alors, je vous cite... Je me rappelle un passage de Lumen Gentium, numéro 10 et 11, qui justement va parler du sacerdoce des baptisés, hein, et qui rappelle, en s'appuyant sur un passage de la lettre aux Romains, chapitre 12, que les baptisés, hein, de par leur baptême, les baptisés doivent s'offrir en victime vivante, sainte, agréable à Dieu, donc ça c'est Romains 12, 1. C'est le but du baptême, hein. Le baptême fait de nous, dit Lumen Gentium, une demeure spirituelle, une demeure pour l'esprit, un temple de l'esprit, mais un sacerdoce saint, pas un sacerdoce ministériel, un sacerdoce royal, prophétique, dont, j'allais dire, le contenu, l'exercice, hein, consiste à faire de sa vie une hostie, une offrande vivante, sainte, agréable à Dieu. Et Mouilleris Dignitatem 27, donc ça, pour le coup, vous ne l'avez pas sur la feuille, c'est un petit peu avant, précise que justement cette hostie, cette offrande de soi, hein, hostie vivante, sainte, agréable à Dieu, qui est le propre du sacerdoce baptismal, c'est une offrande qui est sponsale par nature. Et encore, c'est l'épouse, hein, qui est le modèle de ça. Ça, c'est explicitement dans Mouilleris Dignitatem 27, qui dit « Tous, donc hommes et femmes, tous sont appelés à répondre comme une épouse par le don de leur vie, au don ineffable de l'amour du Christ, qui est, seul comme rédempteur du monde, l'époux de l'Église. » Il n'y a qu'un époux de l'Église, hein, c'est le Christ. Et donc cette image, vous voyez, de cette métaphore de l'Église épouse appelée à répondre dans l'amour au don de l'époux, on voit bien qu'elle n'est pas nouvelle, hein. Elle n'est pas nouvelle dans le Nouveau Testament. On trouve déjà... Dans l'Ancien Testament, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, ces affirmations de Dieu qui se dit époux de son peuple, donc ce n'est pas complètement nouveau. Évidemment, ça va acquérir une portée plus importante. Dans l'Ancien Testament, vous avez le début du livre d'Osée, mon épouse infidèle, je vais la conduire au désert, je parlerai cœur à cœur, elle reviendra, etc. Elle a couru après ses amants, mais elle reviendra, je t'épouserai dans la fidélité, la tendresse, la miséricorde. Relisez les chapitres 1 et 2 du livre d'Osée. Vous avez la grande affirmation d'Isaïe 54, « Ton époux, c'est ton créateur, le rédempteur, le saint de Jacob », je ne sais plus le verset, dans Isaïe 54. Vous avez aussi la grande, le grand passage d'Ézéchiel au chapitre 16. Dieu qui trouve cette petite fille à peine née, abandonnée dans un champ, couverte de sang, pas lavée, pas langée, etc., qui prend soin d'elle, qui la recueille, qui la fait grandir, qui, jusqu'à l'âge des amours, et qui lui confie, qui l'épouse et qui lui confie la royauté. Hein. Dieu qui se présente comme celui qui a pris soin d'Israël dès sa naissance et qui l'a conduit jusqu'aux noces. Et à partir de ce moment-là, bah, tu t'es... tu t'es infatué de ta beauté, tu t'es auto-glorifié. Hein. Donc Dieu époux trahi, époux déçu, époux trompé. Donc évidemment, il faut rappeler, Dieu n'est ni masculin ni féminin. Hein. On est bien d'accord. Dieu est esprit, Dieu n'a pas de sexe, Dieu n'est ni homme ni femme. Mais il emploie cette analogie de l'époux et de l'épouse, hein, donc qui appartient à notre expérience humaine. Il n'y a pas d'époux et d'épouse chez les anges, il n'y a pas d'époux et d'épouse chez les animaux, au sens fort. Hein. Ce n'est pas seulement la génération, l'époux et l'épouse, c'est un engagement spirituel dans l'amour. Ça, c'est propre à l'homme et à la femme. Hein. Bien, Dieu emploie ce langage, cette métaphore humaine, pour dire la manière dont il est lié à son peuple. Et dans le Nouveau Testament, évidemment, ça s'approfondit dans le mystère du Christ et de l'Église. Donc l'icône de l'Église, c'est la femme, c'est Marie, c'est la mère, c'est l'Église. C'est pas Pierre, c'est pas le... Pourtant Pierre est premier, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Ah oui, les fondements, une primauté dans l'ordre du gouvernement. Mais c'est pas Pierre, dit le pape François, qui est l'icône de l'Église. Le prêtre, Pierre, sacerdoce ministériel, il est icône de quoi ? Du Christ prêtre, du bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Lui aussi doit se donner dans l'amour, le prêtre. Hein. Mais ce n'est pas premièrement à l'image de l'épouse qui se donne à l'époux, mais premièrement à l'image du Christ bon pasteur qui s'offre, se dévoue aux soins du troupeau et qui offre sa vie à la croix pour le salut. Donc c'est évidemment deux visages du don qui ne rivalisent pas. Enfin, je crois que si on veut comprendre vraiment ce sacerdoce baptismal, on ne peut le comprendre qu'à la lumière de la femme, de l'épouse, et donc de Marie. Je vous propose peut-être dans le temps qui nous reste une petite méditation sur le mystère de Marie, et peut-être, on peut regarder tous les mystères de sa vie, mais on n'a pas le temps, donc je voudrais peut-être prendre surtout dans l'évangile de Jean, les deux moments où Jésus appelle sa mère femme. Parce que là aussi, il y a une espèce d'anomalie de langage et à laquelle on doit prêter attention. Ce n'est pas normal pour un fils, dans la mentalité sémitique de l'époque, un fils ne s'adressait jamais à sa mère en l'appelant femme. Un homme pouvait appeler à une femme femme. Jésus le fait constamment dans l'Évangile, quand il parle à la Samaritaine, à Marie-Madeleine, à la femme adultère.
À sa mère même.
Ben justement, ça, c'est pas normal. Hein. Qu'il s'adresse à la Samaritaine en disant femme, c'est normal. Ça faisait partie du vocabulaire possible à l'époque. Mais qu'il s'adresse à Marie, sa mère, en lui disant femme, ça doit titiller l'oreille, ça doit attirer la... Ah, qu'est-ce que Jésus veut dire là ? Normalement, il ne devrait pas parler à Marie comme ça. Donc, s'il emploie ce mot, c'est qu'il y a un secret. Quelque chose à découvrir au-delà du langage. Et donc, les deux moments où Jésus s'adresse à sa mère en appelant femme, c'est
à Cana,
et près de la croix. Deux épisodes, d'ailleurs, que l'évangéliste Jean propose d'emblée de lire ensemble, parce qu'il y a trop d'éléments qui se répondent, vous voyez, pour qu'on passe à côté. Enfin, c'est comme s'il y avait des panneaux indicateurs. Mon heure n'est pas encore venue, sachant que son heure était venue. Femme. Enfin, les deux épisodes hein, doivent être lus... s'illuminant l'un l'autre. Donc avant de regarder Cana, peut-être juste un petit mot sur la maternité de Marie. Il faudrait regarder l'Annonciation, la naissance de Jésus. On n'a pas beaucoup de temps à faire ça, c'est moins le thème. Mais peut-être au moins de rappeler que dans toute maternité, toute femme, depuis Ève, hein, la maternité est le lieu justement emblématique de la manière dont l'humanité est associée, appelée à coopérer au dessein de Dieu. Dans la maternité, la femme coopère à l'accomplissement du dessein créateur. Ça, c'est vrai de toute maternité.
Au point que dans ma première maternité, ça devait être un petit peu vexant pour Adam quand même, la première parole d'Ève, c'est « J'ai acquis un homme de par le Seigneur ». On va lui dire bah, « Et ton mari il a quand même fait quelque chose ?» Ah oui, mais il y a une coopération directe avec Dieu. Hein. La vie ne vient pas des parents. Hein. Ah oui, la vie biologique, bon. Mais dans tout acte de procréation de l'homme et de la femme, hein, que Dieu laisse l'initiative à l'homme et à la femme, il y a une intervention directe de Dieu qui donne l'âme. L'âme, elle ne vient pas des parents. Hein. C'est ça qu'on ne peut jamais s'approprier l'enfant. Il dépasse complètement les parents depuis le premier instant de sa conception. On ne sait pas ce qui sera, qui il sera. Il nous dépasse. Mais c'est la mère. Alors bien sûr, le père intervient. Il n'y aurait pas d'enfant s'il n'y avait pas les deux. Mais c'est la mère qui le porte, qui le nourrit pendant 8 mois, qui le met au monde, qui est la responsable de sa première éducation. Et donc, dans toute maternité, il y a vraiment, j'allais dire, le modèle de la coopération de la créature avec son Dieu. C'est Dieu qui donne l'âme spirituelle, et c'est la femme qui, dans son corps, hein, lui donne de sa chair, de son lait, de son temps, de son amour, pour que l'enfant, ultimement créé par Dieu, hein, dans son âme spirituelle, mais pour que l'enfant puisse venir au monde et grandir et croître, hein, et s'épanouir comme enfant et comme fils de Dieu. Donc toute maternité associe la femme à Dieu bien plus que l'homme n'est associé à Dieu dans sa paternité. De manière réaliste, concrète, incarnée, dans sa chair. Pas seulement pendant un instant, mais pendant des mois de grossesse, avec le labeur de l'enfantement, et l'allaitement. Enfin, vous voyez, il faut revenir à ce réalisme premier de la maternité, hein, qui est une œuvre qui associe la femme à Dieu, même si elle ne le sait pas. Hein. Évidemment, dans la maternité divine de Marie, cette association de la créature à Dieu, elle prend un caractère complètement unique. C'est-à-dire que celle que Marie porte dans sa chair, comme toute femme porte un enfant dans sa chair, celle qu'elle met au monde, c'est le propre Fils de Dieu, le Verbe, deuxième personne de la Trinité. C'est pour ça qu'on parle de maternité divine. C'est une maternité humaine au sens où elle le porte et elle le met au monde, mais c'est une maternité qui est divine dans son fruit, dans sa source, hein, parce qu'il n'est pas conçu de Joseph, mais de l'Esprit-Saint, et divine dans son fruit, puisque la personne que Marie met au monde, ce n'est pas une personne humaine, c'est la personne divine du Verbe venue dans la chair. Le Verbe fait chair. Donc il y a, dans la maternité divine de Marie, un reflet de la paternité éternelle de Dieu au sein de la Trinité. C'est le même, engendré par le Père de toute éternité, et enfanté dans le temps par Marie. Pas deux, hein. C'est le Verbe éternel qui se fait chair en elle. Donc là, il y a Dieu invite Marie à coopérer, pas seulement à l'accomplissement de son dessein, mais à son propre mystère. Elle est comme participante dans le temps. J'essaye de peser mes mots pour ne pas faire d'hérésie, hein, parce que dans ce domaine-là, il faut avoir un langage théologique très très précis, parce qu'on vire très facilement dans... Les imprécisions sont tout de suite hérétiques, hein. C'est délicat. Hein. Marie est invitée à vivre dans le temps, en enfantant le Verbe de Dieu dans le temps, elle est comme rendue participante d'un mystère qui en Dieu est éternel, engendré de toute éternité du Père. Donc on ne peut pas concevoir ça, c'est complètement bouleversant. Hein. Et c'est une femme, ça c'est la femme qui dit ça. Donc la maternité de Marie assume ce qui est vrai de toute maternité humaine, mais va associer la créature à Dieu d'une manière encore plus profonde. Elle est associée, l'engendrement éternel du Verbe au sein de la Trinité, ça c'est le mystère de Dieu, mais Marie est associée à sa réalisation dans le temps. À la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, celui qu'il engendre en lui-même de toute éternité comme son Verbe de lumière né de la lumière. Il est engendré par Marie dans le temps. Il est fait chair dans le temps, dans le sein de Marie. Donc c'est le même mystère, mais d'un côté de toute éternité, de l'autre côté, dans notre temps. Alors ça, c'est vrai dans la maternité, et évidemment, cette coopération libre et aimante de Marie, elle se limite pas au moment, comme dans toute maternité humaine d'ailleurs, elle se limite pas à la mise au monde de Jésus au moment de sa naissance, elle s'approfondit tout au long de la vie du Christ, où Marie, on le voit, quand on, notamment chez Saint Luc, regarde la présentation au temple, le recouvrement de Jésus au temple, et puis ensuite Cana, à la croix, chez Jean, on voit comment Marie est invitée de plus en plus profondément. Elle est associée de plus en plus profondément à la mission du Rédempteur. Associée. Pas seulement spectatrice, mais associée. Alors, regardons peut-être déjà à Cana, chapitre 2, premier moment où Jésus l'appelle femme. Troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus y était. C'est la première mentionnée. On ne parle pas d'abord des disciples ou de Jésus. D'abord, la mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité à ses noces. C'est curieux. La mère de Jésus était là, et Jésus aussi avec ses disciples. Donc, il y a un dessin hein, dans la manière de raconter l'épisode. Ils sont tous là. Et pourquoi l'évangéliste le souligne dans cette forme ? La mère de Jésus était là. Donc, c'est un signe qui va être fait par Jésus, mais c'est comme si, en fait, l'épisode, Jean, enfin, l'évangéliste, voulait attirer notre attention d'abord sur la mère de Jésus. Le signe de l'eau changée en vin, c'est Jésus qui le fait, c'est le premier des signes, et ses disciples croient. Mais en fait, le centre de l'épisode, la vérité qu'il faut en retirer et que l'évangéliste en garde, ah, tiens, elle est plutôt située du côté de la mère de Jésus que du côté de ce que fait Jésus lui-même. Elle est mentionnée la première, et littérairement parlant, c'est très net. La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité à ses noces, ainsi que ses disciples. Or, il n'y avait plus de vin. Enfin, le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, il n'y a pas de vin. Alors, voyez les noces, ça aussi. Pourquoi l'évangéliste commence-t-il par raconter un miracle qui concerne quelque chose de finalement complètement contingent? On manque de vin à des noces et le Fils de Dieu, rédempteur de l'homme, il n'est quand même pas venu juste pour nous donner du vin, pour échanger de l'eau en vin quand le vin s'épuise. Mais oui, mais c'est des noces, vous voyez, toujours ce mystère nuptial. Voilà, les vraies noces de Dieu avec l'humanité, elles sont là. Le véritable époux des noces de Cana, parce que le grand absent, si vous regardez bien, c'est l'époux. Hein. Il n'y a pas de vin, c'est lui qui a été chargé des. Bon. Le véritable époux des noces de Cana, c'est le Christ lui-même. Ah, c'est lui qui apporte le vin. Normalement, c'était l'époux qui devait veiller à ce que apporter le vin. Et là, finalement, celui qui se révèle comme le véritable époux des noces, c'est le Christ. Celui qui donne non seulement le vin, mais le bon vin gardé en réserve jusqu'à présent, et en plus en surabondance. 600 litres quand les gens sont déjà ivres, vous imaginez. Enfin, faut être un peu. C'est pas très prudent de la part de Dieu. Quand ils sont déjà ivres, ça va, ils ont déjà bien fait la fête. Tu leur en donnes encore 600 litres de bon vin. Mais pourquoi ce cadre pour décrire le premier miracle? On aurait pu faire quelque chose d'un peu, voilà, guérir un aveugle, ressusciter un mort. Ça, c'est digne de Dieu, c'est digne du Christ. Changer de l'eau en vin, ça fait un peu magicien, vous voyez? Ah oui, mais symboliquement, c'est extraordinaire. C'est les noces. Dieu vient de nouveau pour que... Il est présent non seulement dans nos noces humaines, c'est-à-dire dans la célébration de l'amour. Il vient sanctifier l'amour humain, il vient donner le vin pour que la joie des noces ne manque pas, pour que, autrement dit, pour que l'amour humain ne tarisse pas. L'amour humain s'affadit, tarit, s'épuise, s'il n'est pas constamment transfiguré, renouvelé par l'amour, par le vin que le Christ vient donner. C'est magnifique pour parler du sacrement de mariage, évidemment. Donc, premier signe de Jésus, comme par hasard, au milieu d'un mystère de noces. Et la mère de Jésus est là, au premier signe. Pour le reste, on ne nous dit pas qu'elle est là. Hein. Quand Jésus guérit des boiteux, des aveugles. Mais là, elle est là. Donc ça, tout ça, ça a du sens. Marie est là, invitée, mentionnée la première. Et elle va intervenir concrètement hein, pour ce signe que Jésus va faire. C'est elle, la première chose peut-être. Donc, quand je dis elle, c'est... La femme, à chaque fois, hein, parce que ça nous dit quelque chose de la mission de la femme dans les noces de l'humanité avec Dieu, que sont la vie de l'Église, le pèlerinage de l'humanité, le chemin de l'humanité jusqu'au terme. Hein. Dieu regarde ça comme un mystère de noces en route, quoi, hein, en, chemin d'accomplissement. Donc Marie est là, et son premier rôle, c'est d'intervenir auprès de Jésus en lui faisant remarquer le manque de vin. Ils n'ont pas de vin. C'est très beau, en fait, que cette expression du manque, Jésus le sait, évidemment, il est Dieu, il n'a pas besoin de Marie pour faire le miracle, il n'a pas besoin d'une source d'information. Mais là encore, vous voyez, c'est une nécessité de sagesse, c'est une convenance dans la sagesse de Dieu à ce que ce soit la femme qui vienne apporter au pied du Christ la détresse des hommes. Ils n'ont pas de vin. Elle lui présente le manque. Elle ne lui dicte pas ce qu'il a à faire. Elle ne lui dit pas faire miracle. Elle ne lui dit pas... Elle n'épilogue pas sur la situation. Elle ne se lamente pas. Elle n'anticipe pas une solution. Elle présente tout simplement à Jésus le manque de vin. C'est très beau parce qu'en fait, elle est quand même la première, vous voyez, à remarquer le malaise des serviteurs de vin, à anticiper la honte qui va retomber sur les mariés. C'est très féminin avec cette attention concrète aux détails. Marie est la femme et celle qui veille pour que ne soit pas épuisée la joie des noces, pour que ne soit pas mis dans l'embarras ceux qui étaient chargés du service du vin et les époux qui ont peut-être mal calculé leur coût. Et Marie est là, non seulement elle remarque le manque, mais elle le présente à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Elle anticipe la catastrophe. Une délicatesse de l'amour. Alors qu'elle aurait pu, vous voyez, se dire, moi je suis une simple invitée, ça ne me regarde pas, faisons comme si de rien n'était, et rester tranquillement à sa place. Non, non. Marie, qui sort rarement du silence, hein, il n'y a pas beaucoup de paroles de Marie dans l'évangile, eh bien Marie a cette initiative que Jésus lui laisse. Hein. Première réponse que Jésus lui fait, très énigmatique, au moins ça anime les débats des exégètes. Jésus lui dit, que me veux-tu, femme? Qui a-t-il entre toi et moi? Ah, ça, c'est très embarrassant, cette parole. Très, très, très embarrassant. Parce que quand vous la trouvez ailleurs dans l'Ancien Testament, vous voyez, réflexe de l'exégète, évidemment, c'est d'aller chercher si on trouve la même expression ailleurs. Vous voyez, essayer d'éclairer les occurrences les unes par les autres. Alors, j'ai pas les citations sous les yeux, mais on trouve cette citation plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Et le problème, évidemment, c'est que c'est toujours dans un contexte négatif. C'est toujours, par exemple, entre quelqu'un et son ennemi, qu'est-ce qu'il y a entre nous, il n'y a rien entre nous, qu'est-ce que tu as à voir avec moi. Et donc, quand vous trouvez cette parole ailleurs, c'est plutôt une espèce de signe, vous voyez, de non-relation, ou de non-communion, de fin de non-recevoir, qu'y a-t-il entre toi et moi, fils de je ne sais pas quoi, autrement dit, retourne dans ta tribu, et on n'a rien. Dans l'Ancien Testament, c'est dans ce contexte-là qu'on trouve l'expression. Alors là encore, vous voyez, au-delà de l'exégèse matérielle qui va comparer les occurrences et les mots employés, il faut essayer d'entrer dans l'intention avec laquelle Jésus s'adresse à Marie et de l'intonation avec laquelle il lui parle. Et le seul indice qu'on a pour comprendre ça, c'est quoi? Ben, c'est la manière dont Marie a compris la réponse de Jésus. Si Marie s'était sentie rejetée, que me veux-tu, femme? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Ouh là là, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire, initiative maladroite, je retourne discrètement à ma place d'invité et je ne dis rien, je croyais bien faire. Est-ce que Marie réagit comme ça? Pas du tout. En fait, elle va trouver les serviteurs et elle dit, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Donc on a dans la réaction même de Marie, le signe, l'indice probant, Marie n'a pas été du tout, ne s'est pas sentie rebutée ou rejetée par la réponse que Jésus lui a faite. Au-delà de la matérialité des mots qu'on peut trouver parfois dans la bouche de deux personnes qui n'ont pas grand-chose en commun, au contraire, Marie ne se sent pas non reçue, non écoutée. Elle va trouver les serviteurs et leur dire tout ce qu'il vous dira. Vous voyez, il y a un mystère à entendre, hein, au-delà de la matérialité des mots, qui échappe parfois à des études plus érudites, hein, mais qui n'échappe. Pardon ?
Oui. Est-ce que ça rejoint quelque part ce qui se passe avec cette femme qui demande quelque chose à Jésus, je ne me souviens plus où elle est, Et il lui dit non, après, il lui dit, mais les petits chiens, ils ramassent bien les miettes. Est-ce que c'est cette même confiance, en fait? Est-ce que c'est ça qui est là?
Alors, c'est encore un peu différent, parce que là, c'est sa mère. Hein. Donc, il y a une complicité absolument unique entre Jésus et Marie. Quand il lui dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est pas à comprendre au sens de qu'y a-t-il, comme si nous n'avions rien de commun, mais c'est plutôt entre toi et moi, il n'y a aucune distance. Tout est communion. Il est son, le fils bien-aimé d'une mère immaculée. Donc, alors c'est évidemment différent quand il s'adresse à d'autres femmes ou à d'autres personnes dans l'évangile, où de fait, le point commun, c'est qu'il ne la rebute pas, cette femme. Il l'éprouve dans la foi. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. C'est une femme païenne, en plus. Hein. Syrophénicienne, on a eu ça il y a 3 jours à Metz, 2 jours. Donc païenne, syrophénicienne. Il éprouve au bon sens du terme la foi de cette femme, mais il ne la rebute pas. Oui, Seigneur, c'est vrai, mais les petits chiens qui sont sous la table, ils mangent bien le pain des enfants. Ah, femme, ta foi est grande. Ta foi t'a sauvée. Va, ta fille est guérie, ta fille est sauvée. Donc, on peut comparer sur un certain point hein, qu'une réponse apparemment dure de Jésus n'est pas du tout quelque chose qui doit décourager ou rebuter la personne qui est en face, mais qui appelle au contraire à une espèce de surcroît de foi. J'ai foi en sa parole et quoi qu'il me dise, je fais confiance qu'il va intervenir. Ça, c'est le point commun entre Marie et cette femme païenne. Mais ce qui est absolument propre à Marie, c'est que de fait, c'est sa mère. Il l'appelle femme, ce qu'il ne devrait pas. Et donc, il la regarde plus seulement comme sa mère, mais comme la femme associée à sa mission de nouvel Adam. Il y a vraiment une association de Marie, là, au dessein de la rédemption. C'est initié à Cana, et ça va se, j'allais dire, éclater en pleine lumière à la croix. Elle ne demande pas quelque chose pour elle, comme la femme qui vient demander une guérison pour sa fille. Il y a une médiation de Marie, là, qui est aux dimensions de l'humanité. Il ne manque pas de vin. C'est l'humanité entière qui manque de vin. Donc il y a quelque chose de plus, il y a plus universel dans l'intercession de Marie auprès du Christ. Elle ne demande pas seulement la guérison pour un enfant malade. Elle présente à Dieu, comme chacun de nous, par son sacerdoce de baptisé, est appelé à le faire, la détresse de tous ses frères. Avec une complicité, une intimité, une communion unique, avec son fils, hein, qui n'est évidemment accessible à personne, même pas à ses disciples les plus proches. Elle l'a porté dans sa chair, et elle l'a conçu dans sa foi avant de le concevoir dans sa chair, comme dit Augustin. Donc, oui, Alexandre.
Oui, ce que je disais, ça, je trouve que ça fait. Le fait que Marie ne se trouble même pas de cette parole humainement dure, c'est bien le signe aussi de son immaculée conception, c'est-à-dire que nous, souvent, quand on entend et le serpent nous prend là, la parole de Dieu, il y a des troubles qui naissent de notre péché, qui nous empêchent d'entendre de façon droite ce qui est dit. Et là, effectivement, des fois,
voilà un bon exemple. C'est ce que je vous disais tout à l'heure déjà à propos des paroles, des conséquences du péché. En fait, nous entendons la parole de Dieu à travers notre psychologie de pécheur, atteint par le péché. Hein. Ce qui, de fait, n'est pas le cas de Marie Immaculée. Et on les exégètes, et moi par Dieu, on est des pécheurs. Donc, il ne faut pas demander à des exégètes. C'est la foi seule qui peut nous permettre, vous voyez, d'entrer, c'est-à-dire de rejoindre quelque chose de non seulement de l'intention de Jésus quand il prononce cette parole, mais de la manière dont Marie Immaculée la reçoit. Par la foi, on peut toucher ça. Donc Marie dit au serviteur, quoi qu'il vous dise, faites-le. Vous voyez, là on voit très bien le rôle de médiatrice de Marie, hein, dont on parlait tout à l'heure. Elle est médiatrice auprès de Jésus des détresses de l'humanité, présente le manque, et elle est médiatrice auprès des serviteurs qu'elle encourage à écouter la parole de Jésus. Hein, quoi qu'il vous dise, faites-le. En fait, c'est Marie qui met les serviteurs de vin en relation avec Jésus. Comme si, comment dire ça? C'est Marie qui met en lumière la présence de Jésus à Cana. Jusque-là, on a l'impression qu'il est invité avec ses disciples parmi les convives. Et en fait, c'est Marie qui révèle la présence du Sauveur au milieu de ses noces humaines. D'abord, elle s'adresse à lui, sans aucune pression, sans aucune ordre, de quoi qu'il. Mais elle s'adresse à lui, non pas de vin. Et ensuite, elle fait remarquer sa présence au serviteur. Quoi qu'il vous dise, faites-le. Donc,
elle est médiatrice auprès du Christ, des détresses de l'homme, de l'humanité, des manques, des misères, des manques de vin, des manques d'amour. Et elle est médiatrice auprès des hommes, à qui elle révèle la présence du Sauveur au milieu d'eux, parmi eux. Autrement dit, elle est médiatrice aussi, comment dire ça ? Elle est responsable, et ça c'est aussi une grâce de la femme. Évidemment, quand je dis grâce de la femme, encore une fois, c'est jamais exclusif, comme si l'homme en était exclu, hein. Mais il y a quelque chose qui lui appartient en propre pour le qualifier et éduquer les autres à le vivre. C'est la femme qui est responsable de la communion des personnes et de qualifier un milieu, le milieu des noces. Marie agit pour que la qualité des noces ne soit pas diminuée, de la même manière que dans l'Église. La grâce de la femme sera peut-être aussi dans la liturgie, par exemple, elle ne célèbre pas la liturgie, mais elle a une grâce et une responsabilité toute particulière pour que le milieu de la communauté des croyants soit un milieu familial, accueillant, vivant, agréable, familial. Vous voyez, la femme est responsable de l'atmosphère du foyer, de l'accueil des personnes, de l'attention à chacun, de faire en sorte que la masse des fidèles ne soit pas juste une espèce de foule anonyme qui se rassemble, mais de personnes qui se sentent accueillies, attendues. Ce n'est pas le curé qui peut faire ça, en tout cas pas tout seul. Là, je fais une petite application très, très concrète, hein, pastorale. Mais il y a une grâce de la femme pour que l'Église soit perçue davantage comme une famille dans laquelle chacun a sa place et est connu, pris en compte pour ses misères, ses questions, ses qualités, etc., connu par son nom, et que le lieu soit beau. C'est des choses toutes bêtes, mais ça fait partie de la liturgie. Les fleurs, les feuilles, la décoration du lieu, c'est pas la liturgie elle-même, mais c'est l'écrin pour que soit célébrée la liturgie d'une manière qui nous rejoigne dans toutes les fibres de notre sensibilité, de notre humanité. Que cette liturgie, elle ne soit pas juste une fonction, c'est vraiment une rencontre de Dieu avec l'homme. Pour ça, il faut que l'Église soit un foyer, un milieu, comme les noces de Cana. Ce sont des célébrations de joie très humaine, dans laquelle la femme, Marie, révèle la présence du Sauveur et intervient pour qualifier ce milieu, avec tout son génie féminin. Les mots de Jean-Paul II. Faire en sorte que l'Église soit d'abord un foyer et pas une institution. Pour beaucoup de nos contemporains, évidemment, l'Église, c'est d'abord une institution. La paroisse, c'est pas. Je ne sais pas quel truc il faudrait prendre, mais la paroisse, on doit avoir cette qualité de relation personnelle qui ressemble davantage à une famille qu'à une entreprise ou une association ou je ne sais pas quel groupe. Alors, je vous lis un petit passage de Balthazar pour changer. La réalité mariale, pas très élégante, la réalité mariale, la présence de Marie, le mystère de Marie, il dirait, agit à l'intérieur de l'Église d'une façon très discrète, comme Marie, très discrète, comme la femme dans le foyer. Mais la femme n'est pas un principe abstrait, mais une personne concrète. C'est toute sa personne qui rayonne une atmosphère féminine. Alors là, écoutez, ça c'est intéressant. Sans cette réalité mariale, qui représente la féminité la plus intime de l'Église, donc quand on oublie Marie dans l'Église, quand on oublie la place des femmes, qu'est-ce qui se passe? L'Église perd son aspect mystique. Donc c'est un homme qui parle, hein, Balthazar. L'Église perd son aspect mystique et devient l'Église du discours permanent, de l'organisation, des conseils, des congrès, des synodes, des commissions, des académies, des partis, des groupes de pression, des fonctions, des structures, des restructurations, des expériences sociologiques, des statistiques. Plus que jamais, c'est une Église faite par les hommes et pour les hommes. Fin de citation. C'est pas moi, hein. C'est Balthazar. Mais sans le mystère marial...
Référence.
Hans Urs von Balthasar, point de repère pour le discernement des esprits. Paris Fayard, 1973, chapitre 9, pages 83 à 86.
Donc, il y a la vérité là-dessus. Hein.
Point de repère pour le discernement des esprits. Point de repère. C'est un livre qui ne parle pas du tout de Marie par ailleurs. Hein. Il y a plein de sujets différents dans ce livre. Mais il y a un chapitre sur le principe marial. Et donc, c'est le chapitre 9 dans ce livre qui s'appelle Point de repère pour le discernement des esprits. Page 83 et suivant. Donc ça, c'est très beau de voir que le mystère marial restera toujours un mystère discret. C'est pas la chose qui fait le plus de bruit. C'est pas la chose qui a le plus de pouvoir. C'est pas la chose qui c'est pas le plus reconnu, le plus rutilant. Mais c'est la réalité indispensable pour que l'Église ne devienne pas l'Église des discours, des synodes, des restructurations, des statistiques, une Église faite par les hommes et pour les hommes. C'est-à-dire une entreprise coupée du mystère marial qui doit inspirer, y compris la hiérarchie et donc le sacerdoce. Hein, ben l'Église devient, c'est plus l'Église, tout simplement.
Excusez-moi de vous faire trois secondes. Je voulais savoir, quelqu'un m'a posé la question il y a très longtemps, quelqu'un qui ne croit pas, mais enfin bon, il était quand même baptisé, il dit, mais vous y croyez, vous, à la Sainte Vierge? C'est pas possible. Hein? Alors, la seule chose que j'ai pu lui dire, mais je me disais, peut-être que je creuse un peu plus, je dis, ben, c'est un mystère. Alors, bien, oui, c'est bien facile de dire que c'est un mystère. À la fin de la conversation, quand même, il m'a dit, je lui ai dit, vous me permettez de prier la Sainte Vierge pour vous? Alors il m'a répondu, ça ne peut pas me faire de mal.
Ah, voilà.
J'ai pas su dire plus loin, j'ai dit, c'est un mystère. Alors, il n'acceptait pas trop que ce soit un mystère.
Bah, c'est sûr que c'est insatisfaisant. C'est vrai, mais c'est insatisfaisant pour quelqu'un qui cherche. Donc après, il faut détailler plus. Bien sûr. Je ne peux pas répondre quoi que ce soit maintenant, parce qu'en fait, j'ai pas passé l'heure. Mais, ouais. Donc, je crois que c'est le 25 avril qu'aura lieu la deuxième rencontre. Ça veut dire que vous avez 2 mois.